Comme le disait Moshe Feldenkrais, en améliorant la qualité de ses mouvements, c'est la qualité de sa vie tout entière qui s'en trouve améliorée. Lorsque nous ne parvenons plus à évoluer et que nous sommes enfermés dans des routines, des comportements répétitifs, la vie nous demande de changer nos habitudes. Souvent, cette demande nous trouve en flagrant délit de résistance. Nous ne sommes pas prêts à changer. Parfois, nous pouvons essayer de changer parce que nous savons que ce changement est nécessaire, mais nous n'y arrivons pas. Nous savons tous qu'apporter des changements dans ces façons d'agir, de réagir et d'interagir dans les situations, ce n'est pas chose facile. Ce que propose le Feldenkrais, c'est offrir un contexte d'apprentissage qui nous permette, de façon simple, basée sur l'exploration de mouvements séquentiels, de développer une attention renouvelée à nous-mêmes, en douceur, graduellement. En explorant ces mouvements qui sont des mouvements habituels mais que nous réalisons dans des conditions inhabituelles, le Feldenkrais nous invite à mettre de la conscience sur la façon dont nous bougeons, qui est révélatrice de nos automatismes de pensée. Ainsi, progressivement, se crée en nous un espace incarné qui est celui de la réception d'informations et de la prise de décision. De là, nous allons pouvoir sentir et entendre dans les situations que nous traversons que nous avons des choix. Car les situations, ça ne s'écoute pas seulement avec des oreilles. La méthode Feldenkrais émerge au XXe siècle de façon plus ou moins concomitante avec un certain nombre de techniques ou pratiques qui, rétrospectivement, ont été classées dans la famille des pratiques somatiques, famille qui ne cesse de s'élargir jusqu'à nos jours. Somatique, ça vient de soma, qui chez les Grecs anciens désigne le corps vivant, le corps vécu, par opposition au cadavre qui a longtemps été le centre de toute l'attention, notamment dans le champ de l'anatomie. Le corps est traversé de processus biologiques en constants ajustements, dont nous n'avons pas vraiment conscience. En interaction permanente avec ce qui nous anime, c'est cette interaction même qui crée le mouvement. Toutes nos actions et toutes nos réactions aussi se traduisent très concrètement par du mouvement, ne serait-ce que un peu d'activité musculaire nécessaire à suspendre son souffle ou froncer les sourcils. Les humains, fondamentalement, sont des animaux et comme tous les animaux, nous avons un cerveau qui s'occupe en grande partie de nous situer dans l'espace, de percevoir cet espace, de nous y déplacer. Le mouvement, comme support de toutes nos activités, est une composante récurrente des pratiques somatiques en règle générale. Toutes ces pratiques concernent les dynamiques entre le mouvement, l'apprentissage et la conscience humaine. Elles s'occupent d'offrir une meilleure compréhension et connaissance du corps présent, c'est-à-dire d'un organisme qui est aussi un ensemble de systèmes régis par une conscience, constamment en train d'échanger et de communiquer avec son environnement. Ces pratiques somatiques ont donc l'ambition de nous donner la possibilité de plus de conscience grâce à un apprentissage qui tend à nous incorporer. Bon, vous l'aurez peut-être remarqué pour vous-même, ce qui nous oblige à changer notre quotidien, ce sont souvent des événements violents, chocs, maladies, accidents, séparations, etc. Par ces événements qui font irruption en générant du stress dans nos vies, quelque chose nous est pris, qui nous contraint à des processus adaptatifs. Et quand c'est toute une société qui n'arrive plus à se remettre en question, sinon une civilisation, ce sont des événements collectifs violents qui vont traverser cette société, sinon cette civilisation, et accélérer son processus évolutif. Mais revenons au mouvement. Moshe Feldenkrais, en proie à toutes sortes de défis pour lui-même et pour son entourage, s'est tout particulièrement inspiré de la façon dont les jeunes enfants apprennent. En observant les bébés et les bambins, il lui est apparu que l'apprentissage humain naît d'une corrélation permanente dans l'organisme entre le fait de sentir, de ressentir, et le fait de bouger, d'impulser un mouvement. Cette corrélation émerge dès la vie gestationnelle et prépare le premier des grands bouleversements d'une existence, l'étape de la naissance. Dans les premières années de vie, les jeunes humains nous montrent merveilleusement cette intelligence du mouvement à l'œuvre, qu'on désigne parfois sous le terme d'intelligence sensorimotrice et qui précède toutes les autres. Cette intelligence est notre base et elle constitue d'une certaine façon le terreau de la pensée verbale et articulée qui va émerger ultérieurement. Au tout début de la vie, donc, les enfants explorent, ils jouent. C'est ainsi qu'ils apprennent et c'est ainsi que se développe leur système nerveux parmi tout un tas d'autres systèmes en construction. Ainsi se mettent en place les fondements de leur personnalité et de leur existence en tant que conscience, en tant que sujet. Dans cette période intense, les enfants acquièrent les bases de leur autonomie en matière de mouvement. Ils se verticalisent par une foule de chemins possibles, avec néanmoins un certain nombre d'étapes, de rendez-vous nécessaires. Et ce condensé d'évolution biologique ne s'arrêtera évidemment pas à la marche, qui n'est, comme tous les aboutissements, que le début d'une nouvelle aventure. Leurs mouvements ne cesseront de se raffiner aussi longtemps que l'environnement les soutiendra dans leur développement et qu'ils y trouveront à nourrir leurs ressources internes. Quand on regarde les enfants, ils nous montrent ce que nous avons perdu, cette capacité de s'exprimer spontanément par le corps et par la voix, car les deux sont indissociables chez les enfants qui vont bien. Donc l'enfant qui va bien joue. Il explore le monde et ses lois. Et dans cette exploration, c'est lui-même qui l'explore, et c'est son propre potentiel qui l'active. Ainsi, il acquiert et raffine sa propre mobilité, celle qui va un jour faire de lui cette créatrice ou ce créateur. Par le jeu, l'enfant suit une nécessité interne qui est celle de sa propre maturation sur tous les plans. L'acquisition de la mobilité porte néanmoins la trace des conditionnements qui ont été exercés sur notre développement dès le tout début de la vie. De la façon dont notre environnement a formaté ce développement et interféré avec notre quête d'autonomie. Dès le début de la vie, l'élan spontané de l'enfant rencontre le paradigme des adultes, pour le meilleur et aussi pour le pire. Évidemment, la présence affectueuse des adultes et leur intervention bienveillante ont du sens et s'avèrent tout à fait salvatrices et nécessaires. Mais il faut dire que parfois, en même temps, elle vient interférer avec son mouvement naturel pour pas grand-chose. Peut-être parce que l'adulte a des peurs ou peut-être parce qu'il se fait une certaine idée de ce que doit être un enfant, idée qui est probablement liée à ses propres conditionnements. Ces interférences peuvent même dépasser la ligne rouge et rentrer dans le champ de l'abus, jusqu'à empêcher le développement de l'enfant sous traumatisme. À partir du moment où l'enfant va à l'école, ça ne va pas nécessairement s'arranger. On va l'assigner de longues heures sur une chaise, sinon de longues années, et on va probablement lui demander de se taire. Parce qu'un enfant qui s'exprime, ça peut mettre les adultes en difficulté. Progressivement, l'enfant intègre cette voix de l'adulte qui lui envoie des injonctions. Il la fait sienne, puisqu'il n'a pas la maturité pour s'en différencier tout simplement. Et simultanément, il développe tout un tas de résistances, car si l'enfant ne peut pas se nommer dans une situation, l'enfance et l'infance, celui qui n'a pas encore accès au verbe créateur, toujours est-il que son système nerveux, lui, sent, ressent et réagit à ce qui lui fait du tort en se créant un solide système de défense. Donc cet enfant-là, que nous sommes à peu près tous, grandit en s'éloignant de plus en plus de ses ressources propres qui auraient fait de lui cette créatrice, ce créateur que nous sommes toutes et tous, au moins à l'état potentiel. L'apprentissage humain tel que les enfants nous le montrent passe donc fondamentalement par le mouvement, ce que les neurosciences ont fini par valider bien longtemps après que tout un tas de pratiques et d'enseignements ne nous le transmettent de fait. Notre corps est en relation permanente avec la Terre qui est notre planète. La conscience d'être sur Terre est très concrète. Elle se traduit par le fait de ressentir le support du sol, de pouvoir y trouver de l'appui, de la sécurité. Et de cela va naître la possibilité du mouvement. Tous les processus biologiques qui nous traversent sont corrélés au fait que nous sentons ce lien avec le sol, ce support, cette sécurité, qui permettent aussi la qualité de notre souffle, de notre respiration. Toute notre proprioception, c'est-à-dire notre sens du mouvement, repose sur cette conscience-là, très concrète et à la fois très complexe, car nous sommes évidemment bien plus que des corps physiques. Nous savons que toute connaissance qui ne passe pas dans le corps et dans les cellules n'est pas réellement utile et ne va pas rester. Elle ne peut pas devenir ressource. Pas vraiment. Bon, pourtant, on voit bien que l'apprentissage scolaire favorise plutôt l'intellect que l'intelligence organique. Si la connaissance n'est pas reliée au mouvement, on peut certes développer une puissance mentale et conceptuelle, stratégique. Mais cela nous décale aussi de notre centre de gravité, de là où est notre peau, de là où sont nos pieds, nos os, notre chair. Le corps, c'est cette dimension fondamentale de nous-mêmes qui nous dit profondément où est notre place en ce monde et nous met en contact avec notre puissance créatrice. C'est aussi cette réceptivité sensible qui nous permet de pouvoir nous mettre à la place de l'autre et de faire de nous des êtres empathiques. Certes, on peut faire des études moins intellectuelles dans un domaine plutôt manuel. S'agit-il pour autant d'un chemin de libération de la conscience et du corps? On voit bien que les parcours scolaires sont conçus pour diriger les jeunes gens vers des places préexistantes et l'on se retrouve alors à endosser un costume de travail qui a déjà été porté et que l'extérieur nous impose, plutôt que de découvrir profondément pour quel genre d'activité on est fait et ce que l'on veut exprimer d'important pour nous par ce choix. Ces costumes de travail, ils sont plus ou moins ajustés à notre être et parfois c'est vrai, ça ne fonctionne pas si mal. Mais souvent, avec cette place vers laquelle le monde existant nous dirige, c'est tout un tas d'habitudes, de mouvements qui sont aussi des habitudes de pensée que l'on adopte, que l'on fait sienne, au point de ne même plus sentir que l'on s'est éloigné de qui l'on est vraiment. Je crois que si on donnait la possibilité aux jeunes générations de découvrir en profondeur ce pourquoi elles sont faites, on serait sûrement surpris de la tournure que prendrait le monde, car ils sont porteurs d'informations que nous, les anciens, ne sentons plus. Et peut-être cela lui permettrait au monde d'évoluer beaucoup plus en douceur et en harmonie. Si on laissait aux jeunes gens la possibilité de nous dire notre futur, plutôt que de leur imposer notre passé. La bonne nouvelle, c'est que la vie nous présente toujours des occasions d'évoluer et de nous transformer, et que derrière tout événement confrontant se cache un cadeau caché, une opportunité de changement. Lorsque nous sommes adultes, nous faisons toutes sortes de situations. Nous traversons toutes sortes de situations et faisons tout un tas d'expériences, toutes destinées à nous permettre d'en apprendre encore et toujours plus, et sur nous-mêmes et sur la vie. Plus nous devenons conscients que cet apprentissage n'est jamais fini et que la vie nous présente en toute situation des occasions d'apprendre, plus nous avons conscience de notre responsabilité en toutes circonstances, et mieux notre mouvement de vie peut alors se déployer, nous amener à exprimer notre créativité en pleine conscience de ce que nous partageons avec le monde. En revanche, si l'on se vit comme étranger aux situations dans lesquelles on se trouve, si l'on reste sourd aux messages subtils qu'une situation nous renvoie, si l'on ne sent même plus sa souffrance, il est probable que la vie nous envoie des épreuves toujours plus difficiles à surmonter. En tant qu'adulte, si on a perdu le fil qui nous relie à notre petite voix intérieure, on peut donc se retrouver avec toutes sortes de problèmes. On peut passer de longues années en ayant intégré ce conflit entre notre mouvement naturel, cet appel à la spontanéité à l'intérieur de nous, d'une part, et d'autre part, ces injonctions qu'on se lance à soi-même et qui sont la trace de la voix injonctive que l'on a intégrée en soi depuis le tout début de la vie. On peut faire taire sa spontanéité des années durant Mais il y a fort à parier qu'un jour, le conflit larvé éclate au grand jour, nous exhortant à trouver en nous des trésors de résilience et d'amour. Concrètement, cela peut se traduire par une maladie, des douleurs, des messages plus ou moins appuyés du corps physique. Parfois, ce sont des séparations violentes, des chocs, des accidents qui peuvent nous demander de remettre brutalement en question notre quotidien. Quand cela nous arrive, c'est un peu comme si une part de nous-mêmes, parfois complètement inconsciente, nous demandait de revisiter de fond en comble notre place en ce monde. Et nous avons un peu évoqué déjà le fait que le corps sait et sent quand il est à sa place. Alors évidemment, ces grands changements, quand ils se produisent, ne sont pas particulièrement confortables. D'une certaine façon, le présupposé de Moshe Feldenkrais, c'est que si on revient à la base de l'apprentissage humain, en douceur et dans des conditions sécures, si on lui donne la possibilité de revisiter ses habitudes de mouvement selon des principes proches de ceux qui régissent l'apprentissage humain au tout début de la vie, la gratuité, le plaisir, le jeu, le respect de son propre rythme et le sens de sa propre curiosité, c'est à une possible réappropriation de ses mouvements, à une déconstruction en douceur de ses habitudes et autres automatismes de pensée que Feldenkrais nous invite. Retrouver le sens de son propre moteur interne, ce rêve enfoui que nous portons en nous. Réapprendre à sentir de sorte que nos actions soient enracinées dans la perception subtile que nous avons d'une situation, en mettant un peu moins d'efforts et de volonté dans la façon dont nous l'abordons et en faisant un peu plus confiance en ces processus qui sont inhérents à la vie elle-même. Sans violence et en suivant son propre rythme, nous redécouvrons ainsi la possibilité de suivre ce petit moteur interne qui nous relie à l'enfant que nous avons été. Pour moi, le Feldenkrais, c'est ça, un chemin qui s'ouvre à soi pour devenir, redevenir et redevenir encore le gardien ou la gardienne de sa propre unité.